Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée aux États baltes et Donald Trump. Dès le 9 novembre, lendemain de l'élection américaine, les présidents estoniens, lettons et lituaniens ont félicité Donald Trump pour sa victoire et ont exprimé à l'unisson l'espoir que leur étroite relation avec les États-Unis demeurera forte dans les domaines de la défense commune et de la lutte contre le terrorisme. Un message de félicitations qui ne cache pas l'inquiétude des pays baltes face à une évolution du rôle de l'OTAN que les trois pays ont intégré en 2004. Inquiétude car durant sa campagne, Donald Trump a évoqué son désir de restructurer l'OTAN et surtout de n'envisager la défense des pays baltes qu'après avoir évalué s'ils avaient respecté leurs engagements financiers vis-à-vis de l'Alliance Atlantique et investi suffisamment dans leur défense. Inquiétude qu'a souhaité dissiper le président Obama lors de sa dernière visite en Europe en déclarant que Donald Trump était un pragmatique. La question qui se pose aujourd'hui est de savoir si l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont de nouvelles raisons de s'inquiéter. Regard sur ces trois pays qui conservent d'amers souvenirs de l'occupation soviétique et pourraient avoir beaucoup à perdre si la position des États-Unis en Europe venait à changer. Nos invités, Céline Bayou, spécialiste des pays baltes, chargée de cours à l'INALCO, rattachée au ministère français des Affaires étrangères et du Développement international. Céline Bayou qui s'exprime dans cette émission en son nom propre. Bonjour.
Bonjour.
Emilia Punziute-Gallois, spécialiste des questions concernant les pratiques diplomatiques contemporaines, rattachée aux séries Sciences Po, auteur de « Diplomatie de l'arrogance, le cas de la Russie dans les pays baltes » paru aux éditions L'Harmattan. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Pierre Molny, directeur adjoint de l'IRIS et spécialiste des questions de défense. Bonjour.
Bonjour.
La vision de Donald Trump sur bon nombre de sujets est un grand mystère. En attendant, les États baltes semblent se trouver dans une situation où ils vont devoir recommencer à expliquer ce qu'ils sont, comme le déplorait récemment un ancien ministre de la Défense et des Affaires étrangères estonien, en soulignant que l'histoire ne se termine jamais. Est-ce à dire que les pays baltes ne sont pas des pays comme les autres, ni au sein de l'Union européenne, ni au sein de l'OTAN qu'ils ont intégré en 2004, Céline Bayou?
Des pays pas comme les autres, de toute façon, chaque pays est spécifique. Après, l'une des caractéristiques des États baltes, c'est sans doute leur taille, qui est une source d'inquiétude, leur histoire, qui est aussi une source d'inquiétude, et leur voisinage. Et évidemment, dans une Europe qui se recompose ou qui évolue, hein, l'histoire n'étant donc pas finie, ils ont quelques raisons d'inquiétude, et notamment par rapport à l'évolution de la politique de la Russie. Donc, ça entraîne un enchaînement, évidemment, de conséquences et d'interrogations de leur part, et notamment évidemment le facteur américain, donc otanien derrière, est très très présent dans leur tête.
Alors leur taille de tout petit pays, Emilia Punziute-Gallois?
Oui, enfin, ce sont des petits pays qui parlent les langues qui sont peu connues. Donc finalement, ce qu'elles peuvent faire entendre d'elles-mêmes dans le monde, c'est ce qu'elles disent. Finalement, il y a peu de monde qui les connaissent vraiment. Et c'est un problème de tous les petits pays, mais surtout les petits pays qui sont, voilà, les diplomates qui sortent, ce sont presque les seuls que les autres vont rencontrer. Donc c'est ça l'histoire, toujours de se représenter et de toujours expliquer ce que nous sommes, parce que justement ce sont les pays qui sont peu connus. Et la spécificité aussi, c'est que ce sont les pays de frontière. Ce sont les pays qui sont à la frontière extérieure de l'Union européenne et de l'OTAN. Donc, c'est de là d'où découle leur vulnérabilité.
Une vulnérabilité qui, finalement, n'est peut-être pas suffisamment prise en compte, Jean-Pierre Molny.
Elle est quand même prise en compte dans le sens où, au niveau de l'OTAN, il y a quand même cette mission de police aérienne qui est assurée par les pays de l'OTAN par rapport à ces trois pays, qui est une situation très, très spécifique, finalement, au sein de l'OTAN, puisque c'est peut-être le seul cas de figure où on a une mutualisation d'une opération, d'une mission militaire au service de pays de l'OTAN. Mais je pense qu'une des particularités quand même des trois pays baltes, c'est que ils sont entrés dans l'OTAN déjà dans la deuxième vague d'élargissement de l'OTAN, donc en 2004. Et puis, c'est des ex-pays de l'Union soviétique. Donc c'est quand même ça leur particularité principale. Donc c'est d'une certaine manière le plus, je dirais, la frontière, elle est d'abord politique avant d'être une frontière de délimitation terrestre. Et le fait qu'il y a des minorités russes assez importantes dans un certain nombre de ces pays.
Alors développera effectivement en parlant du cas spécifique de l'Estonie. On a souvent dénoncé l'apathie des États-Unis vis-à-vis des craintes des pays baltes. Est-ce que ce même reproche peut être fait pour l'Union européenne, Céline Bayou?
Ils l'expriment parfois comme ça, mais pas forcément. Ce sont des acteurs, en fait, de l'Union européenne et ce sont, ils ne se veulent pas uniquement consommateurs de sécurité. Et ça, ils insistent beaucoup, notamment au niveau de leurs actions. Alors, au sein de l'Union européenne, ils ont complètement joué le jeu et ils continuent à le jouer en participant à des opérations qui sont menées par l'UE, notamment sur des terrains extérieurs. Et au sein de l'OTAN, ils font à peu près ce qu'ils peuvent, entre guillemets. C'est-à-dire que l'une des avancées de Trump, en tout cas Trump candidat, avait était en effet de dire, oui, on défendrait les Baltes à condition qu'ils remplissent les engagements au sein de l'OTAN. Bon, la question, c'était les fameux 2% du budget consacré à la défense. Alors certes, sur les trois pays, il y en a un seul qui respecte ça, qui est l'Estonie. Après, si on prend la totalité des pays de l'OTAN, la Pologne le fait aussi, certes. Enfin, la France n'y est pas encore. Les deux autres, donc Lettonie et Lituanie, sont en train de s'engager pour respecter ces fameux 2%, qui sont quand même, pour des pays qui sont en transition encore économique et qui ont subi des crises très violentes et qui ont, si on peut dire, un retard de niveau de développement par rapport à la moyenne européenne, c'est un effort conséquent pour eux. Et tout en sachant que, de toute façon, il est très symbolique puisqu'il s'agit d'engagement vis-à-vis de l'OTAN. Il ne s'agit pas de se protéger. De toute façon, le rapport entre ce qu'ils perçoivent comme le danger qui est la Russie et ce qu'ils peuvent faire, de toute manière, est totalement, si je peux dire, quasiment inutile.
Vous écoutez RFI Géopolitique.
Alors, il est vrai que on le voit, en tout cas, ces trois pays ont exprimé et savent très bien où se situent leurs priorités. Vous l'évoquiez, l'Estonie, dont on peut rappeler qu'elle a aussi envoyé des soldats en Afghanistan, en Irak. Donc, il y a un véritable effort de participation. Et donc, l'Estonie, qui est tout de même l'un des cinq pays membres qui honore l'objectif budgétaire de 2% du PIB pour la défense, et comme l'exprimait à l'instant Céline Bayou, la Lituanie, la Lettonie, qui projette d'y parvenir d'ici à 2018. Un petit mot sur l'Estonie, et je me tourne vers vous, Emilia Pounziotegalois. Elle entre dans l'ère de Trump avec un nouveau gouvernement de coalition conduit par le centriste Jüri Ratas, je ne sais pas si je prononce correctement, du Parti du Centre, qui est le bastion de l'électorat russophone d'Estonie, dont beaucoup souhaitent un rapprochement avec la Russie. Pourtant, Jüri Ratas, le nouveau leader du Parti du Centre, a promis que la politique étrangère ne changerait pas et qu'il maintenait les sanctions à l'encontre de la Russie et son projet aussi de défense militaire au-dessus des 2%. C'est une certitude.
Enfin, il faut un peu relativiser la situation, même si le parti de centre a été vu comme celle qui était un peu pro-russe, puisqu'il avait un accord justement avec le parti de Poutine. Mais ça a été il y a longtemps. Le problème, c'était Edgar Savisaar, qui était le maire de Tallinn, qui était aussi impliqué dans les histoires de corruption. Une fois qu'il est parti, je crois que les autres partis qui étaient dans la coalition avec la partie de réforme, ils ont vu que le Parti du Centre, c'est une puissance nouvelle qui peut faire du bien pour le pays, parce que déjà le Parti de Réforme, il était en pouvoir depuis longtemps. Donc on ne peut pas dire que c'est un Parti de Centre, c'est vraiment une partie pro-russe, même si ils étaient plus sensibles au électorat russophone, mais on ne peut pas dire que c'est que des russophones qui ont voté pour ce parti. C'est beaucoup plus compliqué, comme peut-être Céline, elle pourra aussi expliquer plus. Donc, je pense que cette inquiétude de un espèce de changement qui va diverger le pays vers l'autre côté, vers l'est, c'est plutôt les jeux peut-être politiques de l'intérieur, mais c'est aussi le vu de l'extérieur. On connaît pas très bien ce qui se passe en Estonie, justement pour les raisons que j'ai évoquées avant. Donc, on a une impression très très large que ça va à l'est ou à l'ouest. Mais en fait, en réalité, c'est beaucoup plus compliqué.
Qu'est-ce que l'on peut dire, Céline Bayou, de la relation entre les minorités russophones dans chacun de ces trois pays et les populations de chacun de ces trois pays?
Je pense qu'il n'est pas si mauvais que ça. Alors d'abord, il faut exclure du champ peut-être la Lituanie, où il n'y a pas de minorité russophone importante. Alors peut-être une minorité polonophone, mais c'est une autre problématique. Donc la question de la minorité russophone se pose pour l'Estonie et la Lettonie. Et cette cette minorité, elle est quand même en voie d'intégration. Alors, je ne veux pas être d'un optimisme béat par rapport à ça. Il reste encore des non-citoyens, je crois à peu près 70 000 en Estonie. Mais finalement, ce n'est pas si important en masse. Et surtout, ces gens sont tout à fait conscients qu'ils sont dans ces pays, qui sont maintenant membres de l'UE et membres de l'OTAN, avec un niveau de vie qui est quand même... Enfin, le différentiel, en tout cas, du niveau de vie entre Russie et Estonie ou Lettonie ne leur provoque pas énormément de doutes. Enfin, on a eu tendance parfois à faire la comparaison avec la situation ukrainienne. Je pense qu'elle n'est pas valable à ce niveau-là, parce que d'abord, l'histoire n'est pas du tout la même, et puis parce que la Russie n'apparaît pas comme quelque chose d'attractif maintenant pour ces populations russophones. Pour revenir au cas estonien, je crois que cette arrivée du parti du centre, en effet, au sein d'une coalition gouvernementale, c'est intéressant parce que finalement, ça dit plus de choses sur une volonté des Estoniens, alors au sens large, c'est-à-dire les habitants de l'Estonie, quels qu'ils soient, d'une demande de réforme un peu plus sociale, parce qu'il y a quand même des réformes très économiquement libérales très, très rudes, vraiment une politique d'austérité. Et je pense que ça correspond plus à ça qu'à une demande, enfin surtout vu le contexte actuel, une demande de Russie ou de se tourner vers la Russie. Donc en effet, les engagements du Riratas, essayant d'être rassurant et disant non, on ne va pas changer la politique étrangère, etc., je pense qu'en effet, il y a assez peu de chances, de probabilité, disons, de voir une inflexion de la politique étrangère estonienne dans les mois qui viennent, mais plutôt en politique interne, oui, et économique.
Et l'Estonie, oui,
c'est aussi... C'est aussi que la société estonienne, elle est très, très enfin, occidentale. Je ne vois pas comment ils pourraient vraiment soutenir un cours qui serait changé vers l'Est.
Et l'Estonie, dont on peut rappeler qu'elle va prendre la présidence de l'Union européenne à partir du 1er juillet 2017, c'est un rôle important et qui donne de la visibilité de ces États baltes à la fois pour l'Union européenne et au-delà, bien évidemment, Emilia Pudžiūtė-Galvonė.
Oui, c'est un rôle effectivement qui a été déjà joué par la Lituanie, par la Lettonie. Maintenant, c'est le tour de l'Estonie. Et oui, c'est une manière de donner de la visibilité pour le pays, une chance pour le pays de mettre certaines questions sur l'agenda européenne. Donc je pense que l'Estonie, elle est bien préparée de le faire. Et...
Alors, vous expliquez dans votre ouvrage, dont je rappelle le titre, « Diplomatie de l'arrogance, le cas de la Russie dans les pays baltes », que depuis la chute de l'URSS, Emilia Pudžiūtė-Galvonė, les trois ex-républiques soviétiques occupent une place contradictoire dans la politique extérieure russe. La question qui se pose est de savoir si la Russie considère ces trois pays comme étant inclus dans cette zone d'intérêt russe. Et vous parlez du traitement différent accordé par la Russie aux Baltes par rapport aux autres pays européens. Ça n'est pas qu'une question de taille.
Non, c'est la question de l'histoire. Enfin, la question qu'on se pose les Baltes depuis leur indépendance, est-ce que les pays baltes font partie de ce qu'on appelle l'étranger proche de la Russie? Enfin, c'est un terme utilisé par les Russes. Donc, tout ce qui est le communauté des États indépendants, ça entre plus dans cette catégorie que les pays baltes qui se sont tournés vers l'Ouest depuis le début, depuis les années 90. Donc, voilà, on voit que la Russie, elle n'a pas ce projet économique, ce projet politique très, très exprimé, comme par exemple vers les pays comme Arménie ou je sais pas, Biélorussie, Kazakhstan. Mais néanmoins, il traite les pays baltes comme les ex-pays soviétiques, encore un peu comme les anciens amis, les anciens dépendants.
Jean-Pierre Volny, un commentaire sur ce que vient de dire Emilia Pudžiūtė-Galvonė. Et pour aller au-delà, est-ce que finalement on peut dire que 2004, qui a donc marqué l'entrée des pays baltes dans l'Union européenne et dans l'OTAN, a changé quelque chose dans la relation russo-balte?
Je ne sais pas si ça a changé quelque chose dans la relation russo-balte. C'est d'abord la relation de la Russie avec l'Union européenne, avec les États-Unis, parce que 2004, ça correspond, je dirais, à la fin de la période de creux stratégique de la Russie, le début de la remontée en puissance avec l'arrivée de Poutine. Et donc, il est évident que cette modification, on va dire, des frontières stratégiques ne peut pas être sans incidence sur la relation avec la Russie. Donc c'est toute cette question, c'est la question du poids de l'histoire et de la sortie de la guerre froide. Donc en réalité, tout ça ne devrait pas poser de problème. Le problème, c'est que justement, aujourd'hui, ça pose, on va dire, potentiellement un problème. Et que donc, il faut trouver une solution de relation apaisée, on va dire, de tout le continent ouest européen avec la Russie. Le jour où il y aura cette relation sera apaisée, le fait que les pays baltes soient dans l'OTAN ou le fait que les pays baltes seront dans l'Union européenne ne posera pas de problème. Alors, c'est encore une fois un problème potentiel, mais il faut l'avoir en tête.
Alors, la relation n'est pas apaisée. Le sommet de l'OTAN qui s'est tenu à Varsovie en juillet dernier a concrétisé dans le domaine militaire les décisions politiques annoncées au sommet de Newport de septembre 2014 en réponse aux actions conduites par Moscou en Ukraine. Est-ce que la confrontation politico-militaire est de retour aujourd'hui en Europe après, on peut presque dire, un quart de siècle de grandes vacances qui a vu après la fin de la guerre froide, la coopération régnée en matière de sécurité. Pour terminer cette première partie de l'émission, je ne sais pas qui souhaite répondre. Céline Bayou.
Il y a une volonté de la Russie aujourd'hui de passer des messages à l'Ouest et il me semble à l'OTAN notamment, mais à l'UE aussi, et d'affirmer son mécontentement ou son incompréhension. En tout cas, elle l'exprime sous cette forme-là. Après, ce qui veut pas dire, enfin, il s'agit juste d'écouter ce qu'elle essaye de dire. Et notamment, enfin, le discours russe sur toute cette question du continent européen, il me semble, depuis quelques années, c'est de dire nous nous sentons agressés et nous nous sentons repoussés vers un Est un petit peu inconnu ou un petit peu qui serait différent, qui serait autre. D'où notre réaction. Et ce qu'on constate, notamment sur le terrain baltique au sens large, et qui va au-delà de la question des trois États baltes, ce sont des provocations. C'est-à-dire depuis notamment 2014, c'est-à-dire depuis l'affaire de la Crimée, où tout le monde s'est tendu et crispé sur le continent, on constate en effet des tangentes d'avions en permanence, des problèmes sur mer, la multiplication des exercices militaires. Mais cette multiplication, par exemple, des exercices militaires, elle est à mettre, il me semble, enfin je parle sous le contrôle de M. Molny, à la fois de la Russie et de l'OTAN, puisque chacun multiplie tous ses exercices avec à chaque fois un déploiement plus grand d'hommes et d'armes. Donc il y a des messages qui sont adressés de part et d'autre, une espèce d'escalade. Alors il ne faut pas être non plus dans une réaction extrêmement angoissée, je ne sais pas. Mais il y a des messages qui ne se rencontrent pas pour le moment, qui sont sans doute à des niveaux différents. Ou, voilà, mais sans doute qui derrière, il y a une demande de dialogue réciproque qui pour le moment se fait pas, enfin très, très clairement. Donc il va falloir qu'à un moment donné, tout le monde réussisse quand même à s'asseoir à une table et discuter.
Alors on parle beaucoup du jeu du chat et de la souris pour évoquer les relations entre l'OTAN et la Russie. Jean-Pierre Molny.
Je vais revenir quand même sur le sommet de l'OTAN à Varsovie. Le sommet de l'OTAN, les conclusions du sommet de l'OTAN sont plus équilibrées que qu'on ne pouvait le penser. C'est-à-dire qu'il y a un message qui est de dire aux Russes nous dissuadons, nous sommes dans une politique de dissuasion, mais nous ne sommes pas non plus dans une politique agressive et nous voudrons continuer le dialogue. Tout ça est écrit, et notamment ça se traduit par le fait qu'il n'y a pas eu de déploiement de forces permanentes. C'est des forces qui sont en rotation. Et ça, c'était très important et c'était un débat au sein des pays de l'OTAN.
La question des forces permanentes, elle est en train d'émerger. On poursuivra peut-être dans la deuxième partie de l'émission, mais avec un déploiement de matériel russe dans l'enclave de Kaliningrad. Ça, c'est tout de même un point d'évolution.
Ce qui est sûr, c'est qu'on a, pour l'instant, on est dans une phase, on va dire, d'accroissement des tensions, mais qui n'est pas encore très importante. Autre chose, c'est qu'il y a quand même eu deux réunions du Conseil OTAN-Russie qui ne s'étaient pas réunies depuis la Crimée. Oui. Donc il y a quand même une volonté de rétablir le dialogue. Ce qui est ennuyeux, c'est que, effectivement, vous venez de parler de Kaliningrad. Ce qui est ennuyeux, c'est qu'on est dans une situation qui est en retrait par rapport à ce qui existait en 1975, c'est-à-dire au moment de la guerre froide, puisque quand on avait institué à Helsinki des mesures de transparence et de sécurité, c'était justement pour éviter les incidents militaires. Et là, des incidents militaires, on en a continuellement.
On poursuivra dans la deuxième partie de l'émission. Géopolitique, nous retrouvons nos invités, Céline Bayou, Emilia Punziute-Gallois et Jean-Pierre Molny, dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, quelques regards sur les États baltes et Donald Trump, nous retrouvons nos invités. Céline Bayou, spécialiste des Pays baltes, chargée de cours à l'INALCO, rattachée au ministère français des Affaires étrangères et du Développement international. Céline Bayou qui s'exprime dans cette émission en son nom propre. Emilia Pounziuté Gallois, spécialiste des questions concernant les pratiques diplomatiques contemporaines, rattachée aux séries Sciences Po, auteur de Diplomatie de l'arrogance, le cas de la Russie dans les Pays baltes, paru aux éditions L'Armatan, et Jean-Pierre Molny, directeur adjoint de l'IRIS, spécialiste des questions de défense. Jean-Pierre Molny, nous avons terminé la première partie de l'émission. Vous évoquiez l'idée qu'on était dans la relation entre l'OTAN et la Russie aujourd'hui dans une phase d'accroissement de tensions. Et vous évoquiez la situation de retrait par rapport à ce qui se passait ces dernières années. Est-ce qu'on peut dire finalement que les tensions OTAN-Russie sont comparables aujourd'hui à celles qui opposaient l'Alliance Atlantique au pacte de Varsovie ? Et quels risques ces tensions comportent-elles ?
La situation est un peu différente parce qu'on n'est pas dans une situation de guerre possible où on avait, durant la guerre froide, quand même deux camps qui étaient clairement en opposition. Là, on n'a pas clairement deux camps en opposition, mais en même temps, les instruments qu'on avait mis en place en 1975 pour éviter justement un conflit possible entre les deux blocs, aujourd'hui ne fonctionnent pas, ils ne sont pas appliqués. C'est quand même un véritable problème parce que ça peut créer tout simplement un incident militaire non voulu. On peut imaginer un avion russe qui s'approche pour près, puis à un moment, on tire dessus, et à ce moment-là, on sera quand même dans une crise diplomatique importante. Donc ça, c'est le premier risque. La deuxième chose sur la tension entre la Russie et on va dire, entre guillemets, le bloc occidental, ça remonte pas quand même à la question de la Crimée et à 2014 et à l'Ukraine, hein. Il y a quand même un débat stratégique important. Et ça qui date du début des années 2000, c'est quand l'OTAN a décidé de déployer un bouclier antimissile en Europe. Et là, il y a eu un débat avec la Russie qui a duré une dizaine d'années, qui n'a débouché sur rien, et qui est le fait que les Russes ont le sentiment que cette défense antimissile est dirigée contre eux.
La raison invoquée par les pays de l'OTAN, c'était le danger iranien.
C'était le danger iranien, mais donc aujourd'hui, il y a un accord avec l'Iran et on voit bien que le projet se poursuit, même si Obama l'a revu en 2009, justement pour apaiser certaines craintes de la Russie. Mais cette question n'est pas réglée et donc il est certain qu'elle pollue la relation stratégique entre les Européens et les Américains. Les Russes, sur cette question de défense antimissile, moi je me souviens d'un séminaire qu'on avait fait, il y avait Rogozin qui était présent à ce séminaire, c'était en 2009, on avait organisé ça, je me souviens très bien que le point de départ c'était qu'ils voulaient être intégrés totalement dans ce projet de défense antimissile, pour pouvoir le contrôler. Et puis à un moment, Rogozin a fait une sorte de preuve par l'absurde en disant « Bon, écoutez, le seul moyen de régler le problème, c'est d'intégrer la Russie dans l'OTAN. »
Alors, je reviens à ce qu'on évoquait également dans la première partie de l'émission, c'est l'enclave russe de Kaliningrad, située entre la Pologne et la Lituanie, deux pays donc de l'OTAN, avec un déploiement de missiles sol-air et de missiles balistiques. Jean-Pierre Molny, un déploiement qui a vocation à être permanent. Ça veut tout de même dire que voilà, chacun pose ses pions. Et finalement, est-ce qu'on peut parler de climat de confrontation militaire en Europe ou politico-militaire en Europe ?
Là, on a une vraie question stratégique qui n'est pas réglée. Et les déploiements qui ont lieu à l'heure actuelle, ils ont été annoncés depuis plusieurs années. Là aussi, ça date d'avant la crise ukrainienne. Et là aussi, c'est lié à cette question de défense antimissile. Bon, maintenant, durant la guerre froide, vous avez eu une course à l'armement. Cette course à l'armement, elle n'a pas nécessairement donné lieu à une confrontation militaire. Le jour où il y aura peut-être un accord politique, à ce moment-là, on inversera la tendance et on aura peut-être du désarmement et on aura le retrait des missiles que les Russes veulent déployer à Kaliningrad.
Céline Bayou ?
Oui, je crois aussi qu'il y a dans cette manifestation qui est faite avec beaucoup de publicité, parce que les Russes ne l'ont pas fait discrètement, hein, donc il y a vraiment une stratégie de communication derrière. Ils le présentent aussi comme une réponse aux mesures de réassurance de l'OTAN, notamment dans les États baltes, avec cette idée de dire voilà, vous êtes en train de nous dire que c'est sur une base de rotation, ça n'est pas permanent, mais les rotations sont permanentes. Donc ok, c'est peut-être pas les mêmes bons hommes qui sont là de 6 mois en 6 mois, mais il n'en reste pas moins que vous vous engager là maintenant, assurer une présence qui d'ailleurs très demandé et très attendu par les États baltes, qui s'apparente à une présence permanente, ou en tout cas pour un certain temps. Il y a une stratégie de communication de part et d'autre quand même.
Alors, on reviendra sur les attentes des Pays-Baltes. J'ai encore une question pour vous, Jean-Pierre Molny. Est-ce que, d'après vous, la crainte est fondée d'un Yalta II qui sacrifierait l'indépendance des Baltes et des Polonais et tous les autres jadis dans l'orbite russe en échange d'un deal Poutine-Trump en Syrie ?
La principale question, c'est de savoir qu'est-ce que va faire Donald Trump. Et j'avoue que nous n'avons jamais été dans une situation où on ait autant d'interrogations sur la politique étrangère des États-Unis et où tous les experts, enfin ceux qui disent il va se passer ça ou ça, j'ai envie de dire tant mieux pour eux parce que c'est une incertitude totale vu le personnage. Et tant qu'on n'aura pas une vision un petit peu exacte de la façon dont va fonctionner l'entourage et on va dire des rapports d'influence au sein de l'entourage de Donald Trump, on aura un peu de difficulté à voir ce que peut être l'avenir. Ce qui est sûr, c'est que dans les propos qu'il a tenus, s'il y a effectivement une logique de priorité stratégique, mais bon, je ne suis pas sûr qu'avec ce personnage il puisse y avoir une logique de priorité stratégique, la question de la lutte contre l'État islamique est la priorité des priorités. Et à ce moment-là, effectivement, il peut y avoir éventuellement un accord avec la Russie sur ce point. Est-ce que ça se fera au détriment de la sécurité des États baltes? J'en suis pas certain parce que c'est pas de l'intérêt des États-Unis, parce que malgré tout, au-delà de Donald Trump, il y a quand même les États-Unis. Le principal problème, c'est que si on avait un accord sur la Syrie entre les Américains et les Russes, et par voie de conséquence, un accord sur la sécurité en Europe, le principal problème sera surtout pour les Européens, dans le sens où ils auront été complètement squeezés de la négociation. Et là, ce serait une disparition en tant que puissance politique des Européens qui serait vraiment très très gênante à l'heure actuelle.
Emilia Pozzuti-Gallois, pour revenir à la relation entre les États baltes et les États-Unis, l'inquiétude que nous évoquions en début de première partie de l'émission concernant la relation justement des Baltes avec Donald Trump, il y a une vraie inquiétude par rapport à ces incertitudes qu'on évoquait. Et les États baltes se retrouvent aujourd'hui dans une situation finalement inédite depuis leur passé récent et l'intégration en 2004 au sein de l'Union européenne et de l'OTAN par rapport aux États-Unis.
Oui, c'est une situation un peu inédite parce que les États baltes ont mis beaucoup de confiance aux États-Unis. Donc leur stratégie sécuritaire s'appuie beaucoup sur le soutien des États-Unis et ça a été le cas depuis les années 90. Donc d'avoir cette incertitude de la part du pays allié le plus important, c'est ça qui cause inquiétude dans les pays baltes. Après, comme ça a été évoqué, on ne sait pas comment ça va évoluer. Donc, il y a une croyance que le système constitutionnel américain est assez fort pour contrebalancer le poids du président. Et il y a aussi les républicains, les amis des États baltes qui assurent que ça ne va pas changer. Après, c'est aussi la crédibilité des États-Unis en tant qu'allié principal de l'OTAN, c'est la crédibilité de l'OTAN. Donc il y a beaucoup de facteurs structurels qui vont peut-être pas changer la situation beaucoup. Ce qui peut être le problème, c'est les intérêts privés, c'est un homme d'affaires, Donald Trump. Et s'il ne s'éloigne pas de son business, et on sait que la Russie a aussi les éléments d'un régime de kleptocratie, on peut craindre qu'il peut y avoir des échanges un peu plus économiques, commerciaux, par rapport à la sécurité. Enfin, on ne sait pas.
Vous écoutez RFI, Géopolitique, Marie-France Chatin.
Alors justement, pour poursuivre dans cette notion et impression d'incertitude, est-ce que justement l'absence de certitude en ce qui concerne ce que va faire Donald Trump vis-à-vis ne serait-ce que de l'OTAN et de l'Europe, je me tourne vers vous, Céline Bayou, Jean-Pierre Molny, est-ce que finalement ça ne peut pas avoir des effets vertueux sur la politique de défense européenne et une capacité éventuellement au sein de l'Europe de réaction et justement de se dire qu'on ne peut pas éternellement vivre sous le parapluie américain et qu'il y a d'autres choses à faire et d'autres voies à suivre. Céline Bayou.
Rapidement, je crois qu'en effet, c'est peut-être une occasion pour l'Europe, qui en plus en ce moment est quand même dans une stratégie de développement. Enfin, il y a eu une proposition, notamment franco-allemande, de développement de la PSDC. C'est peut-être en effet le bon moment. C'est-à-dire que si l'OTAN doit, de façon un peu globale, ou les États-Unis se désengager du continent européen, dans une certaine mesure, on ne sait pas trop, c'est peut-être un facteur accélérateur pour véritablement la mise en œuvre, il me semble, d'une politique de sécurité européenne un peu plus active.
Jean-Pierre Molny.
Je dirais que le bon côté des choses, c'est qu'il y a un frémissement, c'est certain. Il y a une remontée des budgets de défense, ça, en Europe. Donc, on a parlé des pays baltes. Enfin, finalement, les pays baltes, c'est ceux qui respectent le mieux les 2%, si on revient au début de l'émission, plus que la France, l'Italie ou l'Allemagne, même si l'Allemagne augmente son budget de défense. Donc, le frémissement, il a été lié d'abord au Brexit, puisque ça a été un des points de relance, en fait, de l'Europe. On s'est dit, là où l'Europe veut faire quelque chose, c'est pour sa sécurité. Donc, donner un signal positif après le Brexit aux citoyens européens. Le problème, c'est que tout ça est très lent, très compliqué. On le voit bien par rapport aux résultats qui seront ceux du Conseil européen de décembre, qui seront quand même assez limités sur le sujet. On a quand même un frein sur cette question, c'est-à-dire que s'il peut y avoir un moteur de relance à ce niveau-là, il est franco-allemand. Le problème, c'est qu'on a les élections en France et en Allemagne l'année prochaine.
Et tout est gelé.
Et donc, malheureusement, je crains que ça soit extrêmement limité, que Donald Trump il va prendre ses fonctions au mois de janvier, et que donc les Européens risquent de se retrouver à la remorque des décisions qui seront prises et qu'ils soient plutôt spectateurs qu'acteurs. C'est quand même un risque qu'il faut souligner, même si c'est vrai que effectivement les Européens aujourd'hui font plus pour leur défense et qu'il y a globalement une volonté effectivement de mieux s'organiser.
Donc du côté des Européens, finalement, vous évoquez la France et l'Allemagne, rien à attendre de tangible avant l'été 2017, Jean-Pierre Molny.
On a au mieux une feuille de route sur ce qui va être décidé au Conseil européen de décembre. Et la feuille de route, alors il y aura une première étape qui sera le mois de mars, qui sera le 60e anniversaire de l'Union européenne. Bon, là, il y a une volonté peut-être de marquer les esprits et qu'il y ait des initiatives. Et puis la deuxième étape, ce serait le mois de juin. Ce qui est sûr, c'est que le dossier maintenant est sur la table à chaque Conseil européen, ce qui n'était pas le cas auparavant. Mais les avancées sont extrêmement limitées. Et si on revient à l'Union européenne et aux États baltes, ce qui est sûr, c'est que pour le moment, les États baltes, les Polonais, un certain nombre de pays du Nord considèrent que la défense, c'est l'OTAN. Et que finalement, ce que peut faire l'Union européenne, c'est soit non significatif, soit même, parfois, ils ont le sentiment que ça pourrait se faire contre l'OTAN. Et donc, là aussi, c'est une difficulté quand même.
Alors, je rebondis sur ce que vous venez de dire. La défense, c'est l'OTAN. Est-ce à dire, Céline Bayou, que finalement, il y a certains manques de confiance des pays baltes vis-à-vis de la politique européenne, de la politique de défense européenne?
Alors, je reviendrai un tout petit peu en arrière historiquement sur le moment où ils ont négocié leur adhésion à l'OTAN. Et c'était un moment, donc avant 2004, où la France était quand même un tout petit peu réticente vis-à-vis de l'OTAN. Et j'ai le souvenir notamment de discours de Jacques Chirac, président, faisant une tournée dans les États baltes et expliquant aux Baltes que finalement, c'était 2001, puisqu'ils allaient rentrer dans l'UE, est-ce qu'ils avaient vraiment besoin de rentrer dans l'OTAN et que les garanties de sécurité seraient suffisantes. Et ces interlocuteurs baltes étaient mais plus que dubitatifs, c'est-à-dire vraiment perplexes, en se disant mais qu'est-ce qu'il nous raconte exactement, et lui exprimant le fait, et je me souviens de cette expression parce que je trouve qu'elle était assez bien trouvée, de dire mais finalement, écoutez, on a deux bras et vous nous demandez d'en couper un. C'est-à-dire que nous, on prend tout ce qui est une garantie de sécurité, on prend. Donc l'OTAN, on prend parce qu'on voit bien que ça existe et c'est là. Et puis l'Europe, si ça existe aussi, on prend aussi. Donc il y a vraiment une ouverture complète. Et là, je crois que le moment dans lequel on est aujourd'hui, de tension et d'interrogation par rapport à une inflexion possible de la politique américaine, crée quelque chose de très logique, finalement, chez les Baltes, c'est de dire, au même moment, il y a une initiative au sein de l'Europe, prenons-la aussi. Alors, Il y a quelques mois, ils avaient quand même une toute petite réticence en disant « mais attention, il ne faudrait pas que cette initiative crée des duplications inutiles sur le continent européen entre UE et OTAN ». Donc ils sont très attentifs à cette question, c'est-à-dire il ne faut pas non plus dépenser un argent fou qu'on n'a pas pour des choses qui s'excluraient les unes les autres. Je pense que l'élection de Donald Trump crée une réévaluation peut-être chez eux de cette interrogation.
En tout cas, des attentes très fortes, hein, si on devait résumer des pays baltes vis-à-vis de l'Union européenne et vis-à-vis de l'OTAN, ce qui explique aussi, finalement, d'une certaine manière, que ces trois pays fassent figure de bons élèves au sein de l'Europe, c'est-à-dire qu'il y a des règles, ils sont presque les premiers à les suivre. Le Brexit, Emilia Pouniotti-Gallois, est-ce qu'il fragilise les pays baltes, dont on sait que beaucoup de ressortissants sont partis s'installer au Royaume-Uni?
Oui, une question d'une forte migration des citoyens baltes envers la Grande-Bretagne, c'est une question pertinente. Mais en ce qui concerne l'Europe, ce qui préoccupe les Baltes le plus, c'est qu'au sein de l'Union européenne, la Grande-Bretagne était parmi les alliés les plus importants des pays baltes. Et donc, comment ça se fait la politique au sein de l'Union européenne, surtout au Conseil? C'est quand on négocie quelque chose, on a besoin d'alliés. Quand il y a un représentant estonien ou letton qui dit quelque chose, enfin, bon, on l'écoute, on l'écoute pas. Quand c'est un représentant de la Grande-Bretagne qui l'appuie, déjà, la question devient plus importante. Et donc, de perdre cet allié, ça va être douloureux pour les pays baltes. Surtout que l'Angleterre, c'était un pays avec lequel les pays baltes avaient beaucoup de points communs, beaucoup de positions communes, enfin, qui se rapprochaient au niveau de commerce, au niveau de libre-échange, au niveau de commerce extérieur aussi.
Pour aller plus loin sur cette alliance, ce sera peut-être la dernière question, alliance Pays-Baltes-Royaume-Uni, c'est vrai que réunis par l'eau, par les océans, mais pas seulement, Jean-Pierre Molny, qu'est-ce qu'on peut dire finalement de ce lien particulier entre les Pays-Baltes et le Royaume-Uni?
Ce qui est sûr, c'est que c'était au sommet de l'OTAN... Alors, pas le sommet de l'OTAN de Newport en 2014, effectivement, les Britanniques avaient fait la proposition d'une force d'intervention commune avec les pays nordiques. Donc, il y avait effectivement une sorte d'alliance des pays du Nord qui était en train de se mettre en place. Maintenant, c'était dans le cadre de l'OTAN et jusqu'à nouvel ordre, les Britanniques sont toujours membres de l'OTAN. Donc, à ce niveau-là, ça va pas changer grand-chose. C'est plutôt au sein de l'Union européenne, éventuellement, que ça peut changer les choses. Enfin, sachant que le Brexit, il doit être négocié. Hein. C'est pas encore la fin de l'histoire à ce niveau-là. Sur cette question, c'est les Allemands qui pourraient éventuellement prendre le relais des Britanniques. On le voit avec leur initiative Framework Nation Concept, qui est un petit peu de mutualiser les moyens militaires avec un certain nombre de pays qui sont plutôt des pays d'Europe centrale et des pays du Nord.
Et la France regarde tout cela de quelle manière finalement, pour conclure, Céline Bayou?
Je crois que la France regarde ça avec un intérêt accru parce que le Brexit, c'est quand même un frémissement au sein de l'Union européenne sur quelque chose qui ne va pas dans le bon sens tel que l'entend la France, c'est-à-dire il faut une plus grande solidarité parce qu'il y a des instabilités qu'elles viennent du Sud avec l'État islamique, qu'elles viennent de l'Est avec la Russie, qu'elles viennent de l'Ouest avec l'élection de Trump. Donc on a des incertitudes. Le Brexit en ajoute une supplémentaire au sein de l'Union européenne. Donc il y a une demande plus forte de solidarité et je crois que les Baltes sont assez d'accord. Donc là, il y a vraiment un point de convergence entre la France et les Baltes qui paraît assez évident.
Merci. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Céline Bayou, spécialiste des Pays Baltes, chargée de cours à l'INALCO, rattachée au ministère français des Affaires étrangères et du Développement international. Céline Bayou qui s'exprimait dans cette émission en son nom propre. Emilia Pouniotti-Gallois, spécialiste des questions concernant les pratiques diplomatiques contemporaines, rattachée aux séries Sciences Po et auteur de Diplomatie de l'arrogance, le cas de la Russie dans les Pays Baltes, paru aux éditions L'Armatan. Jean-Pierre Molny, directeur adjoint de l'IRIS, spécialiste des questions de défense. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique le débat. Émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Demain, Géopolitique sera consacrée à la question des paradis fiscaux. À demain. Ministère de la Jeunesse et des